Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Je crois que je viens de trouver le problème de son qui m'embête depuis toute la saison 4 et qui était simplement le câble associé au micro qui déconne. Voilà, j'espère que vous m'entendez mieux. Normalement, c'est mieux. Je suis très heureux parce que j'ai pu gagner une centaine d'euros vu que les autres options commençaient à être d'acheter un nouveau micro. Eh bien non, voilà. Il suffisait de changer le câble. Bref, voici pour cette pré-intro technique. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je pense refaire un épisode thématique cette semaine. Ça m'a plu, j'avoue, de viser quelque chose de moins long, de transmettre une idée par une idée. J'avoue que niveau organisation, c'est plus simple. Moi, ça me permet d'avoir des idées un peu... de pouvoir accumuler les idées et pas juste chaque semaine me dire mince, qu'est-ce que j'ai fait, et puis si j'ai rien fait, me sentir un petit peu vide d'idées. Là, au moins, je sais que j'ai, bon, pour l'instant, j'ai l'idée d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui et le sujet de la semaine prochaine, ce qui peut être pas mal. Mes excuses pour ma voix un petit peu enrouée. Et puis si je tousse ou racle un petit peu ma gorge, je suis pas sûr de pouvoir éditer tout ce que je fais. Bon, si je pars en quinte de tout, je l'enlèverai, mais j'avoue que je vais pas aller réécouter seconde par seconde le podcast pour enlever. Donc je vais faire au mieux pour pas racler ma gorge trop souvent, mais sinon on va y aller comme ça. Donc oui, épisode sur un sujet que j'ai envie de défendre aujourd'hui, que normalement vous avez compris dans le titre, c'est l'utilisation de grandes théories de base de psychologie sociale pour impliquer les personnes dans une recherche. Je trouve que ça se prête bien au sujet du podcast, qui est le vrai mélange entre entrepreneuriat et recherche, parce que, en tout cas, j'utilise des choses de la psychologie pour faire de la recherche dans le cadre d'un contrat d'entrepreneur, mais dans le cadre d'un contrat qui est hors mon contrat de thèse. Mais en fait, c'est des choses qui peuvent être utilisées en général, même si vous faites, j'allais dire, juste une thèse, mais si vous ne faites pas d'entrepreneuriat à côté. Peut-être qu'on peut s'inspirer de ces théories pour impliquer un peu plus les personnes dans les recherches et faciliter l'inclusion des participants. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en préambule. Je commence à remarquer que je suis une personne qui aime bien les préambules, mais bon, c'est mon podcast, d'accord ? Alors, premièrement, pour les psychologues sociaux, notamment psychologie du travail, psychologie sociale, qui m'écoutent, je vais utiliser des théories qui sont très connues et je ne me mets pas en avant en disant que j'ai inventé la roue. Ce sont des roues. Ma manière d'être chercheur, d'ailleurs, de plus en plus, c'est d'utiliser des roues et pas essayer d'aller utiliser des théories plus complexes. Je prends les bases de la psychologie et j'essaie de l'utiliser. Et j'ai une preuve que ça fonctionne. Donc les chercheurs et les psychologues sociaux pourront me critiquer en disant que je n'ai pas utilisé les manières les plus actualisées, que je n'ai pas été très rigoriste sur les théories. Mais je vais vous expliquer un cadre dans lequel utiliser les théories de l'engagement et les théories du comportement planifié m'a aidé cette semaine, donc en plus c'est très représentatif de la semaine, à inclure plus de personnes, et je vais essayer de vous donner une compréhension générale pour pouvoir, et un exemple pratique pour pouvoir l'utiliser dans d'autres conditions. Le but, c'est pas juste de dire voilà, je l'ai fait, je suis trop fort, regardez-moi, mais plutôt regardez comment j'ai pu utiliser des théories pour impliquer des personnes et comment ça peut vous être utile. Voilà, premier sujet. Deuxième préambule, c'est j'aimerais, pour ceux qui ne font pas de recherche, mettre un petit peu de contexte et expliquer en quoi ça peut être pertinent et en quoi c'est intéressant d'être un peu technique et de vraiment se poser sur l'inclusion des participants. Alors, et c'est même une des raisons pour laquelle je trouve que c'est bénéfique de faire de l'entrepreneuriat à côté de sa thèse, ou en même temps que de la recherche. Parce que, en fait, l'inclusion des participants, c'est une galère dans la recherche. Parfois, on perd des semaines, parfois des mois, alors que c'est la base de notre travail, enfin, une des bases de notre travail. Il y a une partie où on lit beaucoup d'articles, on commence à se faire une idée, à avoir des hypothèses, et ensuite on se dit, bah, je vais tester mon hypothèse. Et en tout cas, souvent en psychologie, bon, c'est pas le cas dans toutes les sciences, hein, vu que là c'est une science humaine, on demande à des humains, et bah, il nous faut plusieurs personnes, on va dire d'une trentaine à plusieurs centaines de personnes, selon la méthodologie, pour leur poser des questions, les soumettre à une expérience, faire des entretiens. Et c'est très difficile d'avoir des personnes OK pour participer à une étude. D'ailleurs, c'est même majoritairement des femmes. Donc, même si on arrive à avoir beaucoup de gens, bah, moi, il y a un de mes articles où j'ai 80% de réponses féminines. Donc, c'est compliqué, ça fait perdre beaucoup de temps. Moi, ma stratégie de financer ma thèse, ou peut-être les arguments qui me confortent dans ce choix, c'est de se dire que le réseau que je développe à côté de la thèse, ça peut permettre d'avoir des participants un peu plus rapidement, facilement, parce qu'il y a des partenariats, parce que je me mets en avant sur les réseaux. Alors évidemment, ça peut être fait uniquement par le fait de se mettre en avant sur les réseaux. Moi, je pense que ce que je pourrais conseiller, tout argument compris, c'est que même si vous avez un financement de thèse, sincèrement, faire un post LinkedIn par semaine, essayer d'avoir un truc un peu joli et de faire deux, trois trucs, essayer de négocier avec sa direction de thèse de ouais, on va faire quelques événements, se mettre en avant, aller dans des salons, on prend une photo, un post LinkedIn. Et bah, je pense que bien roder un post LinkedIn par semaine et la gestion des réseaux sociaux, ça peut prendre 1 heure par semaine. Le dimanche, 1 heure, on envoie les demandes, on envoie quelques messages et on envoie un post par semaine. Je pense que c'est le minimum et que ça suffit pour commencer à être vu et pour que la roue tourne et que vous soyez mis en avant. C'est quand même prestigieux de faire une thèse. Donc après, très vite, il y a des gens qui vous contactent et disent « Ah, ce serait bien que tu sois intervenant par là, par là. » Je ne vous parle pas du tout d'argent, mais juste de réseau. Et de commencer à se mettre en avant et de préparer son après-thèse, voire un post-doc, hein, si on veut rester dans la lignée du public. Bah, je pense que le personal branding, s'il y a quelque chose à retenir, et je l'ai déjà répété plusieurs fois, c'est que ça marche. Donc, je recommande de le faire pour tous, même si il n'y a pas une volonté forcément de faire de l'entrepreneuriat à côté. Et donc, oui, on pourrait déjà développer ces réseaux pour potentiellement avoir plus facilement de participants. Parce que quand on sait à peu près comment écrire un post LinkedIn, même si je sais que je suis loin d'être le meilleur, hein, moi j'ai du mal à faire des très bons posts. J'ai une bonne moyenne, je trouve. Je fais toujours 20, 30, 40 réactions. Mais ouais, je ne sais pas faire des posts qui font 100, 200, 300. C'est un peu le deuxième cap. Je ne sais pas exploser LinkedIn, mais... En tout cas, j'ai compris les codes qui font que au moins je sais dire quelque chose qui est un peu prévu. Et donc aujourd'hui, j'espère, et on en parlera, mais j'espère que si je dois envoyer un questionnaire sur LinkedIn, eh ben, je pourrais avoir un petit peu plus de réponses que dans un contexte où j'aurais pas développé mon personal branding sur LinkedIn. En tout cas, ça fait partie de la stratégie et du fait que c'est pas exactement deux métiers en un, l'entrepreneuriat et la thèse, mais j'espère me faciliter la vie, en tout cas, quand j'aurai tout lancé. Ce qui est dur, c'est de tout lancer. Maintenant, ce qui est dur, c'est l'équilibre, et je pense qu'on parlera de cet équilibre la semaine prochaine. J'en ai déjà parlé, mais il y a des nouvelles réflexions qui me sont apparues. Et bah, il y a aussi, une fois que tout est lancé et que ça roule, c'est possible que deux choses s'auto-entretiennent et que je puisse avoir de l'argent un peu plus facilement et que je puisse gagner du temps sur de la recherche. Donc, on verra. Je pense que je suis en période de transition, mais j'espère, et d'ailleurs ça vient de me rassurer sur le point que je voulais défendre la semaine prochaine, pas que, à un moment, mon système, si bien réfléchi depuis trop longtemps, fonctionne un peu et que je puisse gagner un peu du temps à droite à gauche, qui fait que oui, ça va être possible de faire ma thèse et la financer en même temps. Bref, désolé pour ce préambule qui fait le temps du podcast, mais c'est une galère de recruter des participants dans la recherche. En tout cas, Certes, je peux parler d'où je parle, c'est-à-dire dans mon domaine et dans la région rémoise. C'est une galère. Je crois que c'est assez répandu quand même. Peut-être que vous êtes avec un directeur de thèse qui a un énorme réseau et qui sait le faire passer dans des TD, etc. Mais pareil, on ne veut pas tout le temps faire de la recherche à la fac. C'est-à-dire qu'il y a un sujet en psycho qui dit que, et ben, en France, quand il y a une étude en psycho qui est faite, c'est souvent sur des étudiants de psychologie. Donc on peut estimer qu'il y a un biais de sélection. Et donc quand on commence à vouloir faire des études sur la population générale, eh ben, il faut aller choper les gens. Et en tout cas, moi, dans tous mes stages, dans tout mon entourage, à chaque fois que j'ai essayé d'avoir des données, bah, c'était une galère. On va sur des groupes Facebook, on demande aux parents, aux gens qu'on connaît qui peuvent diffuser, et c'est compliqué. Et donc, là, moi, je suis inscrit dans un projet dans lequel eh ben, il faut inclure des participants. Alors, c'est différent, là, c'est pas n'importe quel participant, mais c'est une population. Et il faut quand même les laisser libres et consentants de participer à l'étude. Donc, c'est des gens qui sont inscrits dans un programme, et moi, je dois avoir le plus de personnes possible en entretien. Et donc, j'ai dû, en position de psychologue social, essayer de réfléchir à une stratégie pour avoir le plus de monde possible. Pourquoi il faut une stratégie? Parce que justement, il y a peu de gens qui se portent volontaires facilement, d'autant plus cette population. Je vais pas m'étendre sur les détails parce que j'ai pas d'accord de communication sur mon contrat vis-à-vis de la structure, mais c'est largement, je vais dire, des informations largement suffisantes pour qu'on puisse comprendre l'enjeu et comprendre comment je m'y suis pris. Donc, je dois faire des entretiens avec des gens et ces gens. En tout cas, il y a plusieurs vagues qui sont arrivées. Et dans une première vague, je n'ai pas forcément utilisé de technique de réflexion d'un processus. Et en plus, voilà, c'était une vague de thèse, justement, où je n'ai pas eu le temps de me poser. Je suis arrivé un peu en cours du projet. Donc voilà, j'ai envoyé, je crois que c'était même pas un mail, c'est quelqu'un qui a envoyé sur un groupe en commun un lien. Voilà, prenez rendez-vous avec Alexandre pour faire votre entretien, etc. J'ai eu 5 personnes sur ah je sais plus mais ça se compte en plusieurs dizaines. Il me semble que c'est au moins une trentaine de personnes. J'ai eu 5 personnes qui ont pris un rendez-vous à la première phase. Sur ces 5 personnes, trois sont finalement venues au premier rendez-vous. Et en fait, le principe, c'était d'avoir un autre rendez-vous plusieurs semaines après. Et donc plusieurs semaines après, il n'y a plus qu'une personne qui est venue. Donc ça veut dire que sur 30 personnes, au début du programme, j'en ai trois, et à la fin, j'en ai une. Autant vous dire que j'ai 1 sur 30 de ratio pour réussir à inclure les personnes, et je me suis dit, OK, là, il va falloir faire quelque chose, parce que je suis payé pour m'entretenir avec les gens, il faut que je mette en place un dispositif. Et une réflexion pour me dire comment j'implique les gens pour les pousser à répondre à mon programme. Et donc, j'ai sorti mes vieilles armes de psychologue social, très vieilles, qui sont deux modèles, enfin deux blocs théoriques. Il y en a, c'est un modèle et l'autre, c'est plutôt un bloc théorique. Le premier, c'est la théorie de l'engagement, globalement développée par Joule et Beauvois, que vous pouvez lire. Et puis c'est un livre qui est sympa à lire par le petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens, qui est très connu, hein. Comme je l'ai dit, vous allez peut-être connaître très bien les théories que je développe, surtout que je ne sais toujours pas trop à qui je parle, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de psychologues, donc voilà, je vais rien inventer, je vais quand même m'expliquer un peu la base et surtout bah, donner un exemple et vous, voilà, peut-être ouvrir des pistes, même pour ceux qui connaissent les modèles, sur comment je l'ai utilisé et le fait de vous dire que ça marche. Et pour ceux qui sont pas en psycho, je pense que ça peut être intéressant et j'espère extrapolable à d'autres sujets, le fait d'impliquer les personnes, c'est ça le vrai truc fondamental, hein. C'est pas juste moi dans mon étude pour évaluer un programme, c'est potentiellement vous avez un processus, vous avez une proposition, vous vendez quelque chose, vous faites une conférence, vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un, bah ces théories sont théoriquement utiles. Et d'ailleurs, c'est ce que je développe à des étudiants c'est pas BTS, c'est BUT, un BUT, je sais plus, mais c'est genre un bac plus 2 ou 3. Technique de commercialisation, bah, je leur ai expliqué en quoi ça pouvait être aidé. Je les ai aidés à développer des processus pour mieux vendre. Donc, c'est des techniques de vente également. Donc, voilà. Essayez si vous pouvez de pouvoir extrapoler en vous appuyant sur la manière dont je le fais grâce à mon exemple. Je réfléchis au niveau de détail que je donne sur cette théorie, du coup, entre ceux qui savent déjà ce que c'est et qui vont être saoulés de cette partie, et ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui risquent de ne pas comprendre. Je pense que je préfère ennuyer ceux qui savent que laisser dans l'incompréhension de ceux qui ne savent pas. Donc, je vais expliquer un petit peu la théorie. Globalement, la théorie de l'engagement, c'est le fait de se dire que les actes engagent, c'est-à-dire que quand on fait un acte, on est investi dans ce que l'acte permet. Non, je m'y suis mal pris. Bon, il n'y a pas de coupure hein, et c'est freestyle, d'accord? Maintenant, je suis de moins en moins préparé. Quand on fait un acte, c'est parfois associé à une attitude, à un avis, à une opinion, à un sens. C'est-à-dire que si je trie mes déchets, c'est que je suis pour la protection de l'environnement, pour l'écologie. Donc, quand on fait un acte, on s'investit de plus en plus dans le sens de cette opinion, de cet avis, de cette attitude. Donc, plus je vais trier mes déchets, théoriquement, plus je vais me sentir investi dans cette cause écologique et de protection de l'environnement. Ça, c'est la base générale. Quand on fait un acte, ça nous engage. Il y a des critères pour que cet acte nous engage, parce qu'on le sait très bien, on fait plein de choses dans la vie, et c'est pas parce que je vais... Moi, là, je suis en train de lever les yeux, je vois mon bureau avec plein de tasses de café. C'est pas parce que je vais ranger, descendre les tasses de café que je suis extrêmement investi dans la gestion de la vaisselle chez moi, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il faut que cet acte soit associé à une opinion, une attitude qui nous parle, et que ce soit fait dans différentes conditions, que déjà qu'il y ait un sentiment de liberté, c'est-à-dire que si je vous oblige à ramasser un papier par terre, parce que je suis la police, eh ben vous allez les ramasser, vous n'allez pas le faire pour éviter la pollution. En revanche, si de manière incitative mais non obligatoire, vous sentez dans un sentiment de liberté pour ramasser ce papier, alors, vous pouvez commencer à vous conforter sur le fait que, ouais, en fait, vous êtes plutôt pour le tri des déchets et la protection de l'environnement. Donc, premier point important, le sentiment, et je dis bien le sentiment, l'impression, de faire le comportement de manière libre. Et en fait, c'est la base de plein de techniques de manipulation, justement, où on donne le sentiment de liberté et la personne pensant qu'elle est libre de faire quelque chose, elle va faire le comportement, puis rationaliser son comportement en disant, ah bah si j'ai fait ça, c'est peut-être que je suis quelqu'un qui aime protéger l'environnement. Quelque chose qui est très connu dans ce milieu, c'est la déclaration de liberté. Moi, dans mes fiches de psycho, j'appelais ça DDL, déclaration de liberté. Et bah ça, c'est le simple fait de dire, vous êtes libre d'eux. Ça permet d'augmenter le comportement qu'une personne fait. Donc, si je vous dis ramasse ce papier ou vous êtes libre de ramasser ce papier, eh ben, théoriquement, il y a plus de gens qui ramassent le papier quand je dis vous êtes libre de ramasser ce papier. Surtout quand il n'y a pas de figure d'autorité, le sentiment de liberté augmente le nombre de comportements qui vont dans le sens d'une opinion, d'une attitude. Et là, c'est globalement le sujet du ramassage des déchets et de la protection de l'environnement. Ensuite, il y a des critères qui augmentent cet engagement, donc qui augmentent le fait que si je fais un acte, je vais être engagé, investi dans une cause. C'est le fait que ce soit public. Donc, si un acte est fait publiquement, il est un peu plus engageant qu'un acte non public. Si je vous fais dire, si je vous fais proclamer que vous êtes pour la gestion des déchets, la protection de l'environnement, juste face à moi, ou que je vous fais vous lever dans une classe et que vous le dites devant tout le monde, il est plus probable qu'en sortant de la classe, vous ramassiez un papier qu'en sortant d'une réunion en tête-à-tête avec moi. Également, troisième critère, il faut que le comportement soit vu comme irrépressible ou difficile d'avoir un retour en arrière. Donc plus, et c'est là où c'est compliqué, parce qu'il faut se placer dans un continuum où la personne a le sentiment d'être libre, et où le comportement a l'air quand même compliqué de retour en arrière. En parlant, je me dis, donc je me base essentiellement sur les travaux de Jules et Beauvois, hein, qui eux-mêmes, dans leur livre, citent beaucoup de choses. Je vous passe les citations que je pourrais ressortir de mes anciens cours. N'oublions pas que ce sont des techniques, qui peuvent être appliquées à des fins manipulatoires, mais qui peuvent être utilisées à des fins positives pour, entre autres, impliquer des gens dans une étude. Et donc, une impression d'irréversibilité, ça augmente l'engagement. Et enfin, il faut que l'acte soit un minimum coûteux. Alors, coûteux, ce n'est pas en argent, c'est plutôt en énergie, en temps, en investissement, parce qu'on est toujours sur la théorie de l'engagement et qui, moi, j'aime bien dire la théorie de l'investissement, à quel point on est engagé, on est investi. Et donc, oui, ramasser juste un papier, bon, ça va peut-être pas vous engager dans le fait de trier vos déchets toute la vie. Par contre, si je propose des stages dans un centre de tri, eh ben, si j'arrive à avoir des gens qui disent oui en sortant du stage de centre de tri, eh ben, ça va peut-être vous investir un peu plus. On peut imaginer payer cher, bon là c'est coûteux niveau argent, mais payer cher une place ou aller loin, aller se déplacer loin pour voir un groupe de musique, eh ben, on peut estimer que on va d'autant plus aimer ce groupe de musique parce que on a fait de l'effort. Et ouais, je suis allé voir ce groupe dans les quatre coins du monde, donc c'est vraiment mon groupe préféré. Je fais un comportement qui est coûteux, qui m'a pris du temps, de l'énergie et de l'argent. Et donc, je vais un peu rationaliser en me disant, bah, c'est vraiment mon groupe préféré, j'adore vraiment ce groupe. J'espère que mes exemples sont clairs. C'est difficile sans savoir le niveau de connaissance de ceux qui m'écoutent, mais bah, on verra, j'espère que c'est clair. Je vais essayer de ne pas faire une heure. Je vois que l'épisode avance déjà très vite. J'ai même pas commencé à vous dire ce que j'ai fait. Mais bon, écoutez, on y va. Et on va essayer de vous donner l'exemple précis après. Mais je trouve que c'est important. Donc, publicité de l'acte. L'acte est public. L'acte est perçu comme libre. L'acte est perçu comme plutôt ayant un difficile retour en arrière. L'acte est perçu comme coûteux. Et plus l'acte est répété, plus l'acte est engageant. C'est-à-dire que si vous allez voir une fois une personne en concert, c'est moins engageant, vous allez moins vous dire que c'est votre groupe préféré que si vous allez le voir 10 fois. Parce que plus on fait quelque chose dans un sens, plus on est engagé. Donc plus on fait de manifestations sur un sujet, plus on est engagé dans la cause. Ça, c'est la base générale de la théorie de l'engagement. Donc moi, je me suis dit globalement, là, j'ai des gens, il faut que j'arrive à les impliquer dans une étude. Je savais que ces gens, je pouvais aller les voir une première fois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il faut que j'ai plusieurs actes de plus en plus engageants. Parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. D'abord, je vais vous demander si vous êtes d'accord pour un appel de 10 minutes pour parler de votre manière de trier des déchets. Ensuite, je demande de est-ce que je peux venir chez vous pour regarder comment vous triez? Puis, est-ce que vous êtes intéressé pour faire un stage d'une semaine? Puis, j'en sais rien, est-ce que vous êtes prêt pour faire une manif pour la protection de l'environnement? Voilà, imaginons des choses qui sont de plus ou plus coûteuses, plus ou plus investissantes. La meilleure manière de viser le truc final qui est, je sais pas, participer à une manif, c'est de commencer petit à petit à engager les gens. Donc moi, je me suis dit, il faut que j'engage petit à petit les personnes dans ce processus d'étude. Donc, moi, c'était difficile de faire plusieurs étapes, mais la première étape a été très utile et je pense qu'elle a été marquante. C'est que je me suis dit, je vais pouvoir aller les voir au début de leur programme et leur demander d'écrire leurs coordonnées s'ils souhaitent participer. Donc évidemment, j'ai échangé sur le fait que c'était libre, que c'était sur la base du volontariat. J'ai dit dans mes arguments que ça faisait partie du programme, et que si je les ai au début du programme, il fallait les avoir à la fin du programme. Donc, il y a un petit peu de sujet de, bah, vous êtes déjà en fait engagé dans le truc, ça fait partie du programme, c'est un petit peu irréversible quoi, vous faites partie du programme, ça en fait partie. Et d'ailleurs à la fin du premier rendez-vous, je leur dis, bah, maintenant la prochaine étape, c'est de se voir à la fin du programme. Donc il y a un peu pas le choix, enfin pas le choix. C'est ça qui est compliqué, c'est que là c'est embêtant si tu abandonnes le truc maintenant parce que j'ai pas l'avant-après, ce qui est totalement vrai, mais il faut penser à le dire, et j'ai pensé à le dire dans la base de ce modèle. Si tu viens pas au deuxième rendez-vous, bah, le premier rendez-vous sert pas à grand-chose pour nous et ce serait dommage. Donc tu fais ce que tu veux, mais ce serait dommage. Ce qui est totalement vrai parce que bah, je veux mesurer de l'avant après. Et si on perd beaucoup de gens sur l'après, on peut pas faire de stats sur l'évolution de la perception du programme. Donc, déclaration de liberté quand je dis le truc. Je vais les voir pendant qu'ils sont tous ensemble. Donc, il y a une manière de me donner les coordonnées de manière publique. Donc, les gens, je leur donne le stylo, ils marquent en physique sur une feuille. C'était volontaire aussi, marquer sa disponibilité, son numéro sur une feuille. Et bah, l'acte est un petit peu coûteux en soi parce que déjà, on commence par donner son numéro. Il est faiblement coûteux, mais ensuite, c'est un premier rendez-vous. Et la répétitivité, c'est finalement d'abord donner ses coordonnées. Puis j'envoie un lien, donc deuxième occurrence, j'envoie un lien pour prendre rendez-vous. Et troisième occurrence, c'est le premier rendez-vous. Et ensuite, c'est d'autres rendez-vous. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais, c'était qu'ils prennent un rendez-vous et qu'ils viennent. Et en fait, le simple, je pense que c'est pas obligatoire de faire 12 étapes, parce que là, ce qui a très bien fonctionné, c'est d'aller les voir. Bon, après, il y a aussi une gestion de confiance, je pense. La confiance, c'est mon thème de recherche. Et je sais comment inspirer confiance. Bon, le podcast fait ultra manipulatoire, mais en fait, je le fais de manière authentique. C'est-à-dire que j'essaye d'inspirer confiance en tout temps, parce que globalement, le résumé pour être une personne de confiance, c'est être une personne bien. Et je veux être cette personne. C'est-à-dire que je feins pas d'être une personne pour qu'on me fasse confiance, j'essaie de devenir une personne de confiance réellement. C'est en ça que pour moi, je ne suis pas manipulatoire, j'essaie juste d'être un bon humain dans la lignée de ce que j'apprends en psychologie. Bah voilà, du coup, je sais comment être une bonne personne. J'ai commencé le programme avec eux pour montrer que je suis investi. Et voilà, j'essaye de montrer qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre eux et moi. Et que en plus, voilà, je suis un mec cool, blablabla. Parce que ça fait peur de faire un entretien avec un psy. D'ailleurs, je ne leur ai pas dit que j'étais psy ni doctorant. Parce que je trouve que ça fait peur de se dire je vais faire un entretien avec un psy. Donc voilà, là moi, j'ai réussi à avoir du coup 25 entretiens en une semaine. Donc c'était ça ma semaine finalement. C'est beaucoup, hein. Je ne sais pas ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des entretiens, mais 25 entretiens dans la semaine, c'est énorme. Avec certains jours à 6 entretiens dans la journée, c'est les entretiens pour de la recherche. Ça fait partie des trucs les plus fatigants que j'ai jamais fait. Bah ça et la formation, mais je crois d'autant plus les entretiens, parce qu'on est en gestion à chaque seconde. Si la personne arrête de parler, on doit relancer. Enfin, c'est très fatigant. Et donc voilà, je suis passé de 3 sur 30 à 25 sur, je sais plus, 40 ou 50. Donc c'est énorme, je suis largement satisfait. Mais il y avait même un peu plus de monde que ce que j'aurais espéré pour mes ressources cognitives. Et donc, je leur ai fait écrire leur disponibilité sur un papier pour dire, OK, bah, la prochaine étape, c'est que je t'envoie un lien. Et ensuite, la prochaine étape, c'est faire un rendez-vous. Voilà une application simple de la théorie de l'engagement par un acte qui a été public parce qu'ils remplissaient leur dispo devant les autres. Libre parce que, en effet, je leur disais que ce n'était pas obligatoire. Irréversible. Parce que je leur ai fait comprendre que ça faisait partie du programme, qu'ils y étaient déjà un peu engagés et que c'était relou s'ils faisaient pas le deuxième entretien. Et répétitif parce que bah, j'ai fait en sorte d'avoir plusieurs comportements qui vont dans le sens de participer à l'étude, qui ont été moi juste deux avant le premier rendez-vous, la prise de coordonnées, puis la prise de rendez-vous. Évidemment, il y a eu aussi beaucoup de relances. Et le dernier critère, c'est coûteux. Et ben là, oui, c'est par essence coûteux. Ça l'est peu de donner ses coordonnées, un peu plus de prendre rendez-vous, encore un peu plus d'être dans le rendez-vous et encore un peu plus d'en faire encore d'autres. Là, on peut croire que faire le deuxième rendez-vous, c'est tout aussi coûteux que le premier, mais en fait, c'est l'accumulation de l'investissement qui compte aussi. C'est-à-dire que c'est plus coûteux si je vous avais dit de faire deux rendez-vous avec moi que si je vous dis bah, d'abord inscris ça. Puis d'abord, inscris-toi, puis d'abord prends, puis ensuite prends rendez-vous. Maintenant, premier rendez-vous, et à la fin du premier rendez-vous, on se voit au deuxième. Moi, j'ai pas menti, j'ai dit que le but c'était de voir semaine 3 et semaine 13 de leur programme. Et là, j'ai quand même appliqué le principe de les choses sont de plus en plus coûteuses parce qu'on s'investit de plus en plus dans la recherche. Je vous dirai semaine 13 comment ça a fonctionné parce que c'est compliqué, hein, 10 semaines après, de dire hey, coucou, tu te souviens, tu participais à une étude, faut me parler pendant 1 heure. On verra. Mais en tout cas, la première phase a été très positive et a bien fonctionné. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut faire sur le plan du dispositif et de la manière dont on va réfléchir à des événements qui vont nous permettre d'impliquer les personnes. Maintenant, il y a un cadre intéressant qui est autour de l'argumentaire, qui peut être un peu plus sur le champ de la persuasion. Alors que là, on est plutôt sur le champ de l'engagement. Certains diront la manipulation. Voilà, quel dispositif peut nous permettre d'améliorer nos chances d'impliquer les personnes? Le deuxième cadre auquel je voulais faire référence, que j'ai utilisé explicitement pour impliquer les personnes dans mon dispositif, c'est la théorie du comportement planifié de H-H-Zen. A-J-Z-E-N, en 91, me semble-t-il. Il a mis au goût du jour, mais moi je me base justement sur le modèle de base parce qu'il est clair. Il y a trois grands champs qui me paraissent clairs et applicables. Et dans tous les cas, là, c'est pas dans le cadre d'une recherche scientifique que j'utilise, c'est dans un cadre pratique pour impliquer les personnes. Ce que dit cette théorie, je vais la faire courte parce que de toute façon, je pense qu'elle peut être transmise de manière rapide. C'est qu'un comportement, donc un acte, une parole, quelque chose qu'on fait, est prédit par une intention. Donc là, on n'invente pas grand-chose. La meilleure manière de prédire si quelqu'un va faire quelque chose, c'est s'il dit qu'il va le faire, c'est qu'il a l'intention, la volonté de le faire. Donc si la meilleure manière de deviner si je vais traverser la route, c'est quand je vais vous dire. Je vais traverser la route. Bon, à partir de là, c'est une base ultra générale et fondamentale en psychologie, mais qui ne nous apporte pas grand-chose. Meilleure manière de prédire un comportement, c'est quand ils ont la volonté de le faire. En revanche, là où on commence à gagner un peu en précision et en choses intéressantes pour prédire et provoquer un comportement, c'est ce qui prédit l'intention. Alors, ce qui prédit l'intention, c'est l'attitude. Donc l'attitude, on vient d'en parler, c'est l'avis, l'opinion sur un sujet. Donc c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on croit à propos du sujet lié au comportement ou du comportement lui-même. Les normes, donc à quel point ce qu'on croit et notre motivation à suivre les gens, enfin je vais refaire, ce qu'on croit que les gens pensent du comportement et notre motivation à suivre les gens. Et enfin, le contrôle, c'est notre perception de contrôle sur le comportement, la facilité et l'accessibilité du comportement. S'il est compliqué, on va avoir du mal à avoir l'intention de le faire. Donc, une manière appliquée d'utiliser ce modèle, c'est de se dire, déjà, pour que les gens fassent un comportement, il faut qu'ils aient des bonnes informations et des informations positives à propos du comportement. Ça, c'est les attitudes. Donc, en fait, il faut déjà donner les informations. Donc voilà, ça dure entre 30 minutes et 1 heure. C'est une visio, ça servira à ça. Voilà, déjà, on enlève quelques freins de vous allez vous rendre compte. Je ne vous dis pas juste, il faut prendre rendez-vous avec moi. C'est ce rendez-vous, ce sera ça, ce sera ça, c'est pour ça. C'est dans ce cadre-là. Ensuite, dans ce champ des attitudes, c'est important de travailler sur les croyances. Donc, moi, j'ai compris, parce que j'ai eu la chance de faire un pré-test, qu'il y avait des croyances autour du fait que c'était stressant. C'était potentiellement long. Et donc, je me dois de dire, c'est pas perçu comme stressant par les autres. Donc là, je fais un petit peu d'impression de la norme. Et c'est pas long. Je vous dis 1 heure, mais en fait, j'ai pas de pression de temps. Souvent, ça tourne plutôt autour d'une demi-heure. Donc voilà, je lève un petit peu des croyances qui peuvent être liées au fait qu'un entretien avec un inconnu, c'est stressant, c'est long, ça va me prendre du temps. Ça, c'est ce que je disais comme argument pour l'attitude, et j'ai ajouté l'évaluation de la conséquence. Donc, dans l'attitude, c'est important de donner des informations, de lever les croyances et d'expliquer les conséquences liées au comportement. Donc, moi, je disais que en faisant cette étude, ils seront mieux conscients de l'impact, ce qui est vrai, hein, Ils seront mieux conscients de l'impact que le programme a sur leur vie. Ça leur permettra de d'avoir un accompagnement et un suivi long de leur de leur processus. Et donc, ils ont quelque chose à gagner de d'être accompagnés et d'avoir une vision de leur évolution, de leur état psychologique. Donc, je leur ai donné des infos, levé des croyances et dit, bah, qu'est-ce qui se passera en faisant ce comportement? Et évidemment, vu que j'ai envie qu'ils le fassent, qu'est-ce qui se passera de manière positive? Sachant que je crois à tout ce que je dis, c'est juste que j'ai développé les arguments à la lumière de ce modèle pour les poser et les dire de manière stratégique. Donc là, je favorise tout l'impact de l'attitude, de l'opinion, de l'avis, des connaissances et des croyances sur un sujet pour pousser l'intention de faire le comportement et pousser le comportement. Ensuite, deuxième grosse bulle, grosse boîte sur le modèle pour prédire l'intention, c'est la norme. Donc là, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé mes arguments que je viens de vous dire avec une impression de la norme. Enfin, quand je dis une impression de la norme, c'est je ne dis pas des choses qui sont fausses, mais j'augmente leur impression de la norme, parce que ça reste qu'une impression. Eux, ils savent pas si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je sais que c'est vrai, mais c'est leur impression que j'augmente. Et donc, je leur dis, bah, c'est déjà la deuxième vague qu'on fait. Les gens qui l'ont fait, ce qui est vrai, mais bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Les gens qui l'ont fait m'ont dit que c'était intéressant, m'ont dit que c'était moins stressant que ce qu'ils imaginaient. Et que ça s'était bien placé, que c'était utile, que c'était sympa. Bon, le fait est que j'aurais aimé en avoir plus, mais les retours que j'ai eus, même au premier, quand j'en ai eu trois, m'ont dit que c'était intéressant. Donc là, tout simplement, je leur mets en avant que, ils sont pas le seul, ils font pas quelque chose de chelou, c'est quelque chose qui existe, et c'est quelque chose qui a été bien perçu par d'autres gens similaires à eux, qui ont déjà fait le truc. Donc évidemment, si je vous dis d'aller dans les catacombes avec moi, peut-être que vous me direz non directement, et peut-être que j'arrive à avoir un peu plus de personnes aptes à descendre dans les catacombes avec moi si je dis non, mais tu sais, il y a plein de gens qui le font, y a eu un mort, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul mort en une centaine d'années. Y a des gens qui le font tous les week-ends, ils disent que ça se passe très bien. Moi, même si, je sais pas, aujourd'hui t'as mal aux jambes, il y a des mecs en fauteuil roulant qui l'ont déjà fait, enfin bref, je pense que c'est pas possible, mais. Bon, imaginons que voilà, j'augmente votre impression de la norme et le fait que c'est normal de faire ce comportement. Et enfin, troisième bloc, donc je répète, premier bloc attitude, avis, position, sujet, croyance, voilà, ce gros bloc de qu'est-ce qu'on sait à propos du comportement. Deuxième bloc, les normes, ce qu'on sait que la plupart des gens font et pensent et disent à propos du sujet et du comportement. Et enfin, le contrôle, comment faire en sorte que on puisse augmenter la facilité et l'accessibilité du comportement. Il faut essayer de lever toutes les barrières pour que ça n'ait pas l'air compliqué et faciliter la vie des personnes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis beaucoup de rappels par mail, que j'ai un rappel la veille en SMS, parce que peut-être que c'est des personnes qui ne suivent pas les mails, que j'ai tout automatisé. Je me suis rendu disponible et je leur ai dit de 8 h à 23 h. Donc c'est très facile de prendre rendez-vous, il n'y a pas à se prendre la tête. Et je leur ai dit qu'il n'y a pas besoin de préparation. Donc je facilite du mieux que possible le comportement. Et donc en ayant réfléchi à un petit acte préparatoire, un petit truc où ils commencent publiquement à dire leur disponibilité, et en ayant mon pitch un petit peu où je peux améliorer ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent de cet entretien, ce qu'ils croient ou ce qu'ils pensent que la plupart des gens pensent et disent de l'entretien, et faciliter l'accès et le processus, eh ben, je suis passé de 3 personnes à 25 entre la première vague et la deuxième vague. Et bah, je trouve ça super intéressant et c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Comment ça peut être appliqué? Moi, je travaille dans le milieu de la santé et je pense que impliquer, engager des patients dans des recommandations, dans un processus, eh ben, ça peut fonctionner avec ces mêmes critères-là. On peut imaginer de faire des actes d'engagement public et puis de rédiger des arguments de persuasion sur la base de il faut donner des informations, lever les croyances, dire que il y a des gens qui l'ont déjà fait et puis faciliter le processus. Moi, je trouve que ces deux cadres Très simple. Et oui, dans la recherche, on va pouvoir dire cette boîte-là ne marche pas comme ça. Là, il y a une relation entre la boîte 1 et la boîte 2. Là, maintenant, ce caractère-là, on sait qu'il fonctionne que dans certains contextes. Ça, je pense que c'est une discussion qui est à destination des chercheurs ou à la limite de psychologues sociaux entre eux. En revanche, moi, ce que je trouve de très important et intéressant à retenir, c'est ce que je vous ai dit, la liberté, la répétitivité. Et franchement, faciliter le processus, donner le bon nombre d'informations, lever les croyances, et bah, je trouve que c'est un cadre qui est simple, qui est clair, qui est peut-être pas parfait, mais qui est simple à comprendre et qui pourra vous permettre d'impliquer des personnes, soit dans un processus de recherche, soit dans un processus de soins, par exemple, beaucoup mieux que si vous n'avez rien et que vous proposiez juste quelque chose. En tout cas, moi, j'en ai fait les frais en passant de 5 personnes, non, de 3 personnes, parce que 5 rendez-vous, 3 vraiment remplis. Là, moi, j'ai eu 28 rendez-vous pour 25 réellement qui se sont réalisés. Bah, on voit quand même que c'est des stats qui sont un peu plus impressionnantes. Moi, je vous le dis, avoir 25 entretiens de recherche dans une semaine, c'est quasiment suffisant pour faire un article scientifique. Donc, j'ai pu en une semaine. Évidemment, je suis dans un processus, je ne l'ai pas fait tout seul. C'est un programme qui a lieu sans moi. C'est bien plus dur de le faire dans le cadre d'une thèse. Mais quand même, je suis quand même passé de 3 à 25. Donc, il y a quelque chose à prendre de ces deux modèles. Et j'espère que je vous les ai transmis d'une manière assez claire pour que vous puissiez vous les réapproprier. Et sur ce, je vais vous laisser. Je ne pensais pas faire autant de temps sur ce sujet. Mais et bah, au moins, vous avez un podcast un petit peu long cette semaine. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre sujet. J'hésite à en faire le teasing, mais ça se trouve, je changerai d'idée. Donc, je ne vous le dis pas, mais si vous avez bien écouté l'épisode, vous pouvez un petit peu l'inférer. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.